s'amuser. Dans 10 ans, je m'en irai. Prenez-nous le temps de vous amuser.
Amusez-vous, belle, amusez-vous, dame. Vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
Amusez-vous, belle, amusez-vous bien. Vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
Si dans 9 ans, je m'en irai. Prenez-nous le temps de vous amuser.
Dans 9 ans, je m'en irai. Prenez-nous le temps de vous amuser.
Amusez-vous, belle, amusez-vous bien. Vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
Amusez-vous, belle, amusez-vous bien. Vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
C'est dans 8 ans, je m'en irai. Prenez-nous le temps de vous amuser.
C'est dans 8 ans, je m'en irai. Prenez-nous le temps de vous amuser.
Amusez-vous, belle, amusez-vous bien. Vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
Amusez-vous, belle, amusez-vous bien. Vous n'aurez pas le temps de vous amuser demain.
Université populaire du Royan, Nathalie Bielakoff.
Bien, ben bonsoir, merci d'être aussi nombreux pour cette conférence. Donc je vais essayer de retracer un petit peu un portrait des musiques traditionnelles. J'ai essayé d'utiliser moins de gros mots que dans l'énoncé de la conférence, que je traduirai plutôt par une histoire des musiques traditionnelles d'une société communautaire rurale à une société individuelle urbaine. Pour parler de tout ça, j'ai fait des choix qui sont liés aussi à ce que je suis, des choix d'un certain paysage sonore, donc quelques régions de France. Je me suis astreinte à rester en France parce qu'au niveau historique, sinon c'était trop compliqué, et puis parce que c'est ma pratique personnelle actuelle qui fait ça. Je vis dans le Royan, voilà, donc je m'intéresse aux musiques du Dauphiné, par exemple, sans en être forcément originaire. Ce que j'ai envie de développer ce soir, c'est un petit peu préciser une forme musicale particulière aux musiques traditionnelles qui existe vraiment en soi. Ce sont des critères musicaux, mais également une fonction sociale qui est pour moi fondatrice de ce type musical. Je vais également parler plutôt de musique instrumentale, sachant que le chant a une importance prépondérante, mais je l'ai un peu caché, mais je suis un petit peu violoneuse, donc voilà, la musique instrumentale, c'est plus mon domaine. Avant de vraiment commencer, j'aurais voulu, si je vous dis musique avec un S, trad, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Qu'est-ce que... Tradition.
Tradition.
Folklore, soirée, convivialité.
Travail.
La danse.
Une musique répétitive.
Ah oui, ça peut rester dans la tête longtemps.
Oralité. Ruralité.
Bal. J'ai entendu histoire aussi, j'ai peur de classe.
Populaire, ça a été dit.
Oui, j'ai mis pop.
Violon.
Rythme.
Rythme. Région.
Cérémonie.
Soupe à l'oignon.
Oignon. Je vais essayer de vous proposer un tri dans tout ça. Alors là, on a fait un chant en ronde fermée, où on chante tous ensemble, il n'y a pas un musicien et les autres qui regardent et qui écoutent. Et puis là, je vous propose encore une mise en ambiance. Je vais vous jouer une petite suite de marches de noces. Donc c'était des marches qui étaient jouées dans le cadre d'un rituel très particulier qui était d'aller chercher la mariée à sa maison pour l'amener à l'église.
Thank you.
me mettre un peu en ambiance, je vais pouvoir raconter plein de choses. Je vais essayer de définir la musique traditionnelle avec la fonction sociale, l'oralité, la variabilité, la modalité. Donc la fonction sociale, pour moi, ça définit vraiment... musique traditionnelle sont complètement liées à leur fonction dans une société particulière, qui est la société rurale. Je parle de société rurale, on va plutôt pour l'instant se projeter vers le 19e siècle, parce que après ça a changé, avant c'est pas forcément ce que c'était. Donc une musique populaire qui est rattachée à des rituels populaires. Alors populaire au 19e siècle, je parle des sociétés paysannes, parce qu'au 19e siècle, les milieux populaires français sont représentés par la société paysanne. Donc les occasions de répertoire, de chant suivent les moments de la vie de tous les jours et de la vie de la communauté. La notion de communauté est importante. Donc ça va être le mariage, comme ce que vous avez entendu tout à l'heure, les enterrements, les fêtes votives, le saint de tel patelin, le saint de tel village, la foire, le carnaval, toutes les activités agricoles, plein d'occasions, mais qui sont dans la vie quotidienne, qui ne sont pas forcément des choses rares et extraordinaires. Les sociétés paysannes, pris plutôt dans le 19e siècle, sont des espaces extrêmement restreints. C'est à l'échelle du bourg. Ce sont des espaces assez figés. Il y a très peu d'échanges avec l'extérieur du fait des réseaux routiers, du fait qu'il n'y ait pas de voiture, pas de téléphone, des choses comme ça à cette époque. Dans ces espaces, pour moi, la chose importante, c'est la notion de solidarité, du temps de vie, aussi bien du temps de travail, mais également du temps de loisir. La communauté est et vit ensemble de manière solidaire, au jour le jour, du début jusqu'à la fin de la vie. Je pense qu'il y a une importance aussi dans ces musiques, la notion de paysage sonore, des animaux, la cloche de l'église, le bruit des oiseaux, de la nature autour. Pour moi, c'est quelque chose qui influence fortement ce type de musique. Quelques exemples par rapport à des danses sur la notion d'échange. Il y a des danses qui sont extrêmement marquées en fonction des régions. La gavotte en Bretagne, les rondeaux en Gascogne, le rigaudon dans le Dauphiné, la bourrée deux temps dans le Berry, la bourrée trois temps dans le Massif central. Donc c'est des choses très, très, très marquées, très identitaires. Donc pour résumer, les chants rythment la vie. Et la notion de chant, ça amène aussi la logique de langage. Jusqu'à une période pas si lointaine que ça, dans les campagnes, on parle essentiellement des patois, Languedoc, Languedoil, selon la région où on est. Je dirais qu'une évolution... ce sont les lois sur l'école de 1880, la rendant gratuite obligatoire, amenant à une généralisation de l'usage du français. Je vais essayer de définir les musiques traditionnelles également par rapport à ce que ça n'est pas. La culture musicale liée aux rituels religieux, des rituels profanes, la notion de rituel est assez importante, rituels militaires, je pense aussi à la vénerie, le corps de chasse, où il y a vraiment tout un répertoire précis, codé. Et je différencierais ça également de ce que j'appellerais la musique récréative de la cour en général. Des grandes ce monde qui va très rapidement une musique savante, écrite et codée. Tous ces mondes musicaux se distinguent très clairement mais ne sont pas non plus cloisonnés. Énormément d'échanges peuvent être constatés entre tous ces mondes-là. Donc ce ne sont pas des mondes qui s'opposent mais qui se côtoient et parfois se mélangent. Alors j'avais un exemple qui se transforme en devinette. Un chant qui est très très répandu, qui s'appelle « Adieu pauvre carnaval », qui est vraiment le chant relié à la fête du carnaval. Au départ, c'était un chant religieux, et puis ensuite, c'est devenu un chant paillard. Et ensuite, ça a été lié à carnaval, et peu à peu, ça a dérivé vers, on va dire, un répertoire plutôt traditionnel enfantin.
C'était Bonne nuit les petits, qui, comme nous le précisait Nathalie Bielakoff à l'occasion de cette université populaire du Royan, est un chant qui, à la base, vient du répertoire religieux.
Là, je voudrais parler du principe maintenant d'oralité de ces musiques. La musique traditionnelle n'est pas une musique à la base instrumentale, mais elle vient vraiment entièrement du chant. pour des raisons très simples, c'est que des instruments, ça coûte cher. Donc dans les milieux populaires, les instruments sont arrivés très tard. Il y a deux voire trois types de chants, ce que je vais appeler la monodie, par opposition à la polyphonie. Donc la monodie, il y a une seule mélodie, il n'y a pas d'accord ou de choses comme ça, c'est juste un chant simple qui peut être effectué par plusieurs personnes, mais juste une voix. On va trouver ça dans des travaux agricoles, dans des complaints, des obades, des guates pour la Bretagne, etc. Et puis il va y avoir les chants à réponse, comme ce qu'on a pratiqué tout à l'heure. C'est une monodie, il y avait un seul air. Ce sont des chants qui sont un support pour la danse. Dans les chants en support pour la danse, il y a également ce qu'on appelle le chant au tralala. Il va y avoir une petite phrase, deux petites phrases, qui servent de support de mémoire, et le reste du chant se fait au tralala. Donc voilà, deux types, un petit peu de chants pour la danse et la monodie. Alors moi, j'avais envie de vous faire écouter ce qu'on appelle le briolage. On s'est rendu compte que dans beaucoup de régions de France, il y avait un aspect musical dans tout paysan qui menait le bœuf au champ. Voilà, il lui parlait, mais en musique. C'est un extrait qui a été collecté en 1913, donc très ancien, et qui vient du Berry. Voilà, donc le chant comme base de la musique traditionnelle, donc une musique qui fonde vraiment sa construction et son mode de transmission sur le principe d'oralité, ça c'est quelque chose de très très important. Il n'existe pas d'enseignement théorique, il n'y a pas d'école pour apprendre ce genre de musique. Ça s'apprend par une immersion constante et quotidienne dans la vie de tous les jours. L'apprentissage se fait donc par imprégnation, par imitation. Par rapport à un apprentissage théorique, là, il y a vraiment l'usage des sens. L'imitation peut être visuelle, j'utilise jouie. Il y a aussi le rapport au corps et à la danse. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour moi très ancré dans le corps et dans les sens. Dans la musique traditionnelle, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de date de création. Tel morceau a été inventé par un tel en telle date. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose de très mouvant. Il y a vraiment une logique de mouvance dans ces musiques. Ça se retrouve au niveau des noms des morceaux, puisque souvent, on va utiliser les noms des gens pour nommer les morceaux. Ça ne veut pas dire qu'un tel a créé le morceau, ça veut dire qu'il a été joué par un tel, transmis par un tel. Donc on va retrouver des bourrées de trek, la polka des pépés et des mémés, parce que c'était joué par les pépés et les mémés, la valse à chabot, etc. Par rapport à l'écrit, puisque je vous parle d'une musique orale, c'est une musique qui peut s'écrire, qui pour moi perd énormément de sa richesse en étant écrite, puisqu'il y a des choses qui sont... est difficilement codifiable et il y a un principe de variabilité de mouvance qui ne peut pas être pris en compte dans la musique. Ou alors il faudrait une musique très répétitive qui va tourner 10 fois, il faudrait écrire 10 fois la partition pour noter à chaque fois comment elle va se jouer parce qu'elle ne se jouera pas forcément de la même manière. Par rapport à l'oralité, là j'ai parlé des langues régionales tout à l'heure, pour moi ça a une énorme influence au niveau des mélodies. Puisque selon l'accent, comme c'est le chant qui fonde cette musique, et bien forcément l'accentuation va influer sur la mélodie et sur le rythme des morceaux. Dans cette logique de mouvance, je fais juste une toute petite remarque par rapport à la carrure des morceaux, c'est-à-dire leur forme générale. On peut dire que 90% des morceaux ont tout le temps la même structure, une phrase A qui se répète, une phrase B qui se répète, et puis on revient au début. Une phrase A qui se répète, une phrase B qui se répète, avec un nombre de mesures qui est très très régulier. Dans la bourrée de trois temps, il y aura souvent 8 mesures par phrase. C'est un principe, mais ce n'est pas une généralité non plus, puisqu'on trouve des bourrées avec 10 mesures, avec une petite mesure qui se rajoute et qui... On pourrait se dire que ça va perturber les danseurs, mais non. C'est quelque chose, cette variabilité fait partie intégrante de la musique. Voilà, donc la variabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un morceau, c'est une trame, une sorte de trame commune autour d'un thème musical ou bien autour de paroles. On peut trouver dans les collectages, notamment de chansons, beaucoup d'air où il va y avoir le titre et puis en dessous, il va y avoir écrire sur l'air de. Ça veut dire qu'il y a un air et il va y avoir pléthore de chants qui vont reprendre cet air-là. Et puis chacun va faire un petit peu sa sauce, va mettre son texte, raconter son histoire. Dans la notion de variabilité, il n'y a rien d'écrit. Donc chaque personne qui va interpréter cette musique va y mettre sa sauce, ses petites ornementations, sa manière d'entendre le morceau, c'est-à-dire pas forcément exactement la même forme que ce qu'il a entendu. Ça varie naturellement entre chaque interprète. Il y a également une notion d'improvisation qui n'a rien à voir avec le jazz. Le jazz, il y a une grille et puis il y a un thème qui est... Je caricature un petit peu, mais... Il y a un thème qui est tourné une fois et puis ensuite, on va partir en s'appuyant sur la grille. Là, quelque part, la mélodie reste à peu près la même, mais sur des petits endroits, on va rajouter des petites notes, une petite structure rythmique différente. Voilà, la notion d'improvisation, elle existe, mais c'est des petites touches qui sont un petit peu partout. Un petit exemple, je vais jouer un morceau, c'est encore un morceau breton, de manière simple. Voilà, s'il doit être écrit ce morceau, il sera écrit comme ça. Donc je vais jouer une fois comme ça. Improviser des petites choses un peu partout en gardant la même forme et la même mélodie. Plein de petites choses et puis c'est quand j'ai envie. Voilà, donc il y a un côté improvisation. Pour présenter un petit peu cette variabilité, je voulais aussi vous jouer trois versions d'une bourrée trois tons qui s'appelle Allons à la rivière. C'est en occitan, mais je vous lis en français. Là-bas dans les prairies au bord de l'eau, les canards y sont, ils y sont qui se baignent là, et aussi les canetons. Si on se penche un peu dessus, les canetons sont pas des canetons. L'eau, c'est tout un symbole assez sexuel, souvent. Voilà, il y a toute une symbolique autour des paroles, mais c'est un sujet en soi très, très long. Donc, ça part d'un chant. Donc, ça, c'est une musique qui vient de Corrèze, dans un village. Jean Lamour va jouer de cette manière. Qui vient du village juste à côté. Ils ont beaucoup joué ensemble, mais ils jouent pas pareil. Et puis dans un village un tout petit peu plus lointain, il y a un monsieur, Léon Perra. Pour ceux qui aiment la musique du Massif Central, c'est un grand monsieur, qui va jouer lui aussi encore à sa manière. C'est juste trois exemples. C'est une bourrée qui est assez connue. Je vais vous en donner 15. Chaque personne, chaque musicien va faire sa sauce. Voilà pour la variabilité. Et là, on va attaquer la notion de modalité. La modalité, pour moi, c'est vraiment une notion d'ambiance, de patte sonore, liée à différents modes. à chaque mode va être associée une sorte de schéma mélodique lié à sa couleur. Il y a vraiment une notion de couleur. Le mode, c'est la logique d'intervalle entre les notes. Quand on avait parlé au niveau du jazz la dernière fois, le principe de la modalité expliqué, c'était qu'on ne s'arrêtait pas sur une note.
Nathalie fait ici référence à la première université populaire du Royaume de cette rentrée 2015, qui traitait de la musique noire américaine et plus particulièrement du jazz.
Et alors, dans la musique traditionnelle, c'est vraiment complètement contraire, c'est qu'on s'appuie sur une note du début à la fin et qu'on termine par cette note. Donc il y a tout le temps une notion de bourdon. La cornemuse, il y a toujours un, voire plusieurs bourdons. Ce ne sont pas n'importe quelle note, ça va être la note vraiment fondamentale du morceau. Dans une gamme, qu'elle soit tonale ou modale, il y a 7 notes, 8 notes si on prend la 8e. Donc c'est le premier degré dont je parle, qui va faire le bourdon. Et puis, il va aussi y avoir le 5e degré. En musique tonale, on appelle ça la quinte. Et donc ce sont vraiment des notes qui sont fondatrices des morceaux. Elles vont être audibles, comme dans la cornemuse, mais elles peuvent n'être que perçues parce que évoquées dans la mélodie. Il n'y a pas forcément un gros bourdon sur la musique traditionnelle. D'après ce que je comprends, pour moi, en musique tonale, finalement, il n'y aurait que 2 modes. Et ce serait le mode de Do, les gammes majeures. Je vais, pour donner mon exemple, je vais toujours partir de la même note, qu'on appellera de nom différent. C'est pas grave, mais sinon, c'est sera plus simple. Donc la gamme de Do, ou le mode de Do. Donc ça va être le mode de Do, c'est-à-dire une notion d'intervalle entre des notes.
Illustration à l'aide d'un clavier de piano.
Les modes, tels que je les comprends, partent des touches blanches du piano. On oublie les altérations et on ne va se pencher que sur ces notes-là. Quand il y a une barre noire, c'est qu'entre ces 2 notes-là, il y a un ton. Quand il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a qu'un demi-ton. Moi, je vais utiliser mes doigts. Alors, il faut que je retrouve le Do qui est là. Voilà, il est indiqué. Donc, Do... Entre Do et Ré, je vais avoir un ton. Ré, Mi, un ton. Mi, Fa, un demi-ton. Sol, La, Si. Et entre Si et Do, un demi-ton. Le mode, ça va être en fait prendre Sol. Eh ben, Sol, ça veut dire que je vais partir de Sol et que je vais... Tout le schéma en fait, d'écart des intervalles va reproduire cet écart-là tout le temps. Quand on part de Sol, ben, on va avoir Sol, un ton... Un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton, etc. Et si on part de n'importe quelle note, on va reproduire ce demi-ton-là, va se retrouver décalé d'autant. Je vais vous faire écouter. Le mode de Sol, par exemple. Donc Sol, La, Si, entre Si et Do, un demi-ton. Ré, Mi, entre Mi et Fa, un demi-ton. Je refais celui de Do, mode de Sol. Donc le mode de Sol, ça tombe bien, c'est vraiment le mode par excellence pour le violon. Je suis partie d'une note, on s'en fiche finalement de la note de laquelle je pars. Donc par exemple, un petit rigodon dans du Dauphiné, je vais le jouer ici. Au départ, mais j'utilise le même schéma en fait. Il y a des modes qui sont plus mineurs, des modes qui sont plus majeurs, des modes qui sont plus utilisés dans certaines régions en fonction des instruments. Par exemple, le mode de La, pour moi, c'est vraiment le mode typique des valses d'accordéon. Une valse bien triste d'accordéon, elle est en La. Mode de Fa, je vous en ai joué plus ou moins quelque chose tout à l'heure là. Quelque chose qui paraît presque faux à nos oreilles d'occidentaux modernes, mais c'est quelque chose qui existe beaucoup, notamment dans les morceaux de cornemuse du centre de la France. Il va y avoir des modes très très marqués dans certains types de musique, donc là je m'éloigne un petit peu de la France, par exemple le mode demi qui est typiquement arabo-andalou. Alors je suis désolée, je ne joue pas de cette musique, mais ça. Donc Donc je reprends la même logique entre mi et fa, mi ton. Alors, cette notion de modalité, je vous dis, par exemple, le mode demi, ça n'existe pas en France. A priori, on a trouvé deux chansons en mode demi dans tout le répertoire français. Mais dans des compositions récentes, ça peut être utilisé. Là, je sais que je joue un andro qui a été composé assez récemment, qui est en mode demi. Mais ça, c'est vraiment des choses récentes. Logique d'oralité, de modalité, ça s'ajoute quand même cette notion de musique non tempérée. Il y a des fois une sensation de fausseté quand on écoute des musiques traditionnelles. C'est une fausseté parce que nos oreilles sont devenues complètement tonales dans un milieu musical actuel qui est quand même quasiment exclusivement tonal. Donc il y a des choses auxquelles on n'est pas habitué. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas forcément de fréquence fixe. Quand j'écoute des collectages de violoneux, même d'il y a 50, 60 ans, je ne peux pas jouer avec eux en écoutant parce qu'ils sont accordés sur la cloche de l'église ou voilà. Eux sont cohérents, c'est un système qui est cohérent, mais il n'y a pas une hauteur fixe. Le la n'est pas à 440 ou à 445, il est ce qu'il est. Voilà. Donc des fois, on peut avoir un ton et demi de différence avec notre système officiel, on va dire. Dans cette logique de non-tempérance, il y a également ce que j'appelle les notes mobiles. C'est-à-dire... Je vais jouer comme si c'était sur une partition des notes officielles. Donc là, j'ai fait un Do bémol. Je vais faire un Do dièse. En musique traditionnelle, il existe des choses entre le Do bémol et entre le Do dièse. Ça accroche un peu là. Donc là, c'était un bémol moins, on va dire. Et ça, c'est pas faux dans ce système-là. Nous, ça nous semble de plus en plus faux, mais c'est quelque chose qui est là et qui est cohérent. Ces notes, je les appelle aussi mobiles parce qu'elles peuvent bouger dans un morceau. Ça permet de passer, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré entre le mode de Do et entre le mode de Sol. Si je change juste une note, je vais passer d'un mode à l'autre. Ça veut dire que mon morceau, je peux le faire évoluer dans différentes ambiances. Par exemple, une mazurka qui fait... Alors je vais essayer de le jouer complètement d'une manière, complètement d'une autre, pour que vous entendiez bien la différence, puis après je vais bouger mes doigts. Je peux le jouer aussi comme ça. Puis en fait, moi, quand je joue plutôt comme ça. C'est-à-dire que je bouge. C'est pas toutes les notes qui sont bougées, c'est des notes assez particulières qui vont être dans ce que moi j'en ai entendu au niveau du système plutôt violonneux. Ça va être le deuxième degré, le quatrième degré, parfois le septième degré. C'est pas n'importe quoi qui est bougé n'importe où. C'est vraiment des écarts, des endroits précis. Il y a vraiment une logique. Donc là, je vais juste vous jouer une valse tonale et après une valse modale pour vraiment, au niveau sonore, vous entendez bien la différence. Plus modal. Donc la valse d'avant, c'était la valse à Mathieu, un musicien qui l'a transmis. Et là, c'est la valse de mon grand-père, qui a dû la transmettre aussi. moi, je définirais les musiques traditionnelles. Ça me paraît définir de manière assez globale cet univers-là. J'ai plutôt un propos sur la musique de France. Pour moi, cette définition est valable pour toutes les musiques traditionnelles de la planète, partout où il y a des hommes qui se sont réunis en communauté. Après, les histoires sont différentes.